Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jean-Paul II a voulu faire de ce premier dimanche après Pâques le dimanche de la miséricorde divine. Mais à bien y songer, je crois que c'est toute l'octave de Pâques qu'il faudrait qualifier d'octave de la miséricorde divine. En effet, que fait Jésus pendant cette semaine, à partir du moment où il est ressuscité et jusqu'à aujourd'hui, où il rencontre au Cénacle 8 jours plus tard avec Thomas, ses apôtres, que fait-il sinon pallier leur état misérable? C'est bien ça la miséricorde. Vois chez autrui la misère, alors j'applique mon cœur à soigner cette misère. Et c'est la semaine de la miséricorde. L'atmosphère de l'octave, peut-être avez-vous eu l'occasion de suivre les textes, même si vous n'avez pas eu le privilège d'avoir la messe quotidienne, sans doute, dans ce beau rite qui est le nôtre, eh bien l'atmosphère était chaleureuse, l'atmosphère était toute intime, elle était pénétrée d'un amour prégnant de Jésus-Christ, et comme il l'avait prédit, il est venu consoler chacun d'entre les siens. Vous voyez, il y a cette double atmosphère, à la fois de deuil et en même temps de consolation de ceux qui sont en deuil. Jésus l'avait dit à ses apôtres, juste après leur avoir lavé les pieds, souvenez-vous, au Cénacle déjà, il leur dit cette parole, « Votre tristesse, je la changerai en joie. Je vous verrai, et alors vous serez dans la joie, et personne ne pourra vous ravir cette joie. » Vous voyez, c'est un petit peu les paroles de l'Ancienne Alliance qui reviennent à l'oreille également, « Je changerai leur deuil en allégresse. » Et éclaté de joie. C'est exactement ce que fait le Seigneur Jésus. On a l'impression, la métaphore est un peu faible, elle est peut-être mal choisie, mais on a l'impression que le courant a été coupé d'un coup le Vendredi Saint et que Jésus vient reconnecter petit à petit les ampoules, qu'il vient rétablir petit à petit chacune des lampes. Un petit peu comme si l'époux de la parabole venait au contact de chacune des jeunes femmes, des jeunes vierges qui, bien, bon an, mal an, continuaient à garder la petite lampe avec très peu d'huile parce qu'elles n'avaient pas veillé à entretenir suffisamment cette lampe. Vous voyez, c'est cet époux-là qui est Jésus, époux prévenant, qui vient rallumer, raviver chacune des petites bougies de ses épouses, là, ou de ces femmes qui doivent être là au moment de la noce et qui sont dans la plus grande des tristesses. Pourquoi Jésus prend-il la peine d'apparaître à chacun de ses proches? Eh bien, il n'y a aucune nécessité, évidemment. La simple affirmation de Jésus dès avant sa mort, « J'ai vaincu la mort », la simple prédiction qu'il fait de sa résurrection, hein, « Il faudra que le Fils de l'homme, il le fait par trois fois, il faudra que le Fils de l'homme souffre, qu'il soit livré par les prêtres aux Romains et qu'il soit crucifié, et alors il ressuscitera. » Jésus l'avait affirmé trois fois, et normalement, sa seule parole suffit. Il aurait fallu lui faire confiance. Mais, donc, il n'y a absolument aucune nécessité à ce que le Seigneur Jésus ressuscité apparaisse devant ses apôtres. S'il le fait, c'est par pure mansuétude. C'est par pure gratuité. C'est ça qu'il faut bien sonder. Et c'est pour ça que je dis que cette octave est l'octave de la miséricorde. Quelle est l'octave de l'amour? Vous voyez, on est dans un ordre de convenance. Il convenait simplement que Jésus apparaisse. Pourquoi? Ben, premièrement, je viens de vous le dire, courait le cœur de ces pauvres apôtres. Ils ont été déchirés par le deuil effroyable du meilleur des amis. Ils ont été déchirés par cet apparent échec de celui en qui ils avaient reconnu plus que le Messie, mais le Fils de Dieu. Voilà que la Shoah frappe à nouveau, le silence du ciel, et il suffit d'écouter le témoignage des disciples d'Emmaüs, qui sont de ceux que le Seigneur va rencontrer dans l'octave de cette miséricorde, que disent-ils? Bien oui, nous attendions, il nous avait promis, alors nous attendions qu'il nous délivre, qu'il soulageait, qu'il vienne délivrer Israël. Mais avec tout ça, voilà déjà 3 jours qu'il est mort, pas de nouvelles. Vous voyez, on est dans une situation de deuil terrible. On a les saintes femmes qui vont au tombeau pour embaumer le corps de Jésus. Il faut quand même oser. 3 jours après la résurrection, les jours juifs, vous savez qu'aucune heure n'est perdue, le vendredi, samedi, dimanche, 3 jours, Jésus avait prévu, il avait prédit à ces femmes-là qu'il allait ressusciter le 3e jour. Que font-elles, les pauvres? Elles vont pour embaumer le corps le 3e jour. Comme elles sont dans la douleur, dans le deuil, et comme elles n'ont rien compris. On a ces jusqu'à Marie-Madeleine, l'approche d'entre les proches, on l'appelle l'apôtre des apôtres, cette Marie-Madeleine. Eh bien, Marie-Madeleine, éperdument amoureuse de Jésus, elle-même est dans le deuil. Mais où a-t-on mis son corps? Dis-moi où il est que j'aille l'enfouir. Voilà, Sainte Marie-Madeleine. Et quand les saintes femmes vont trouver les apôtres, que font les apôtres? On les prend pour des gibrées. On prend ces femmes pour de pauvres rêveuses que, dont l'imagination trotte, l'imagination endeuillée, endolorie. Elles prennent leurs rêves pour des réalités, ces pauvres femmes. Vous voyez que tous sont dans une situation de deuil. Tous ont besoin non seulement d'être consolés, mais d'avoir l'intelligence illuminée par le Seigneur Jésus. Ils ont la foi, mais leur foi est au bord de défaillir. Alors Jésus vient pallier tout cela. La seule à demeurer vraiment fidèle, l'Écriture ne nous l'affirme pas. On n'a rien sur la Vierge Marie à partir de la croix. On sait qu'elle vient au sépulcre, point. Mais évidemment, toute la tradition est unanime à attester que Marie, elle, a eu la foi du début à la fin. Qu'elle n'a jamais douté que son fils était ressuscité. Le reste des proches du Seigneur, les apôtres et les saintes femmes, tous ont connu cette douleur intense du cœur, en même temps que cette espèce d'obscurité de l'intelligence et d'obscurité de la foi. Et c'est cela que le Seigneur Jésus vient pallier pendant cette semaine de la miséricorde. Maintenant, on peut comprendre qu'ils aient été totalement déroutés devant cette résurrection. Qu'est-ce que la résurrection, sinon la reviviscence dans un état nouveau de quelques particules de matière qui ont été jusqu'au bout de la dérédition. Voilà notre intelligence. On peut très bien comprendre, il ne faudrait pas faire les malins à l'égard de saint Thomas, par exemple, ou à l'égard des apôtres. Ce n'est pas parce que le Seigneur Jésus leur fait des reproches qu'il faut que nous estimions qu'ils étaient dans la faute, dans l'erreur, les pauvres. Étaient endoloris par un deuil, encore une fois, leur cœur et leur intelligence étaient ankylosés, et il fallait que la lumière de ce monde, qui était Jésus, vienne réchauffer leur cœur et vienne éclairer leur intelligence. Voyez. Alors, je me suis souvent demandé, mais je ne suis pas le seul, parce que je pense que vous aussi, en tout cas la tradition s'est toujours demandé, pourquoi il s'était manifesté, le Seigneur Jésus, uniquement à ses proches. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait éclater sa gloire, qu'on en finisse enfin avec tous ces agnostiques, tous ces païens, ou même avec nos propres doutes, avec le doute des... Comment se fait-il que Jésus ait choisi uniquement de se manifester à ses quelques proches? Et c'est vrai que c'est très étonnant. Eh bien, il en va toujours ainsi dans la révélation de Dieu. Dieu utilise toujours un ou quelques sujets pour porter un secret. Parce que c'est ça dont il s'agit. La résurrection, c'était à la fois quelque chose d'officiel que Jésus avait annoncé à la face du monde et qui doit éclater un de ces jours, à la fin des temps, à la face du monde. Et en même temps, c'est un secret. C'est un secret qu'il convient de communiquer uniquement au creux de l'oreille. Vous voyez, cette délicatesse de Jésus qui vient voir ses proches. Pourquoi est-ce que, pour chacun des grands mystères, il a fallu que Jésus, ou plutôt Dieu, se contente de manifester cela à une toute petite élite? Car lors de la nativité du Sauveur, je vous fais remarquer, elle n'a pas du tout éclaté à la face du monde, cette venue du Christ dans le monde. Que berger, quelques mages, terminé. Ça a été le cas lors de la Transfiguration. Trois apôtres seulement témoins de cet événement fabuleux, la Transfiguration. Ça a été le cas à Gethsémani, lors de l'agonie de Jésus. Il fallait quand même voir cette agonie de Jésus. C'est très important pour notre foi de voir que Jésus est tellement incarné qu'il va jusque-là. Trois témoins seulement, et encore, les témoins ne sont pas capables de veiller une heure avec Jésus. Vous voyez qu'à chaque moment important de l'histoire du salut, c'est une toute petite élite qui est choisie pour recevoir cette révélation. Comment se fait-il que dans cette semaine de la résurrection, une poignée de personnes seulement, les saintes femmes et les apôtres, aient eu connaissance du mystère de la résurrection? Souvent on se plaint de ça, parce qu'on aimerait bien faire partie de ce petit groupe, ce serait tellement plus simple, se dit-on. Mais le premier motif pour lequel Dieu ne s'est pas manifesté à tout le monde dans son état de ressuscité, c'est parce qu'il veut nous laisser libres. Il ne s'impose à personne, il ne nous viole pas. Vous me direz, mais alors pourquoi s'est-il manifesté à ces quelques apôtres, à ces saintes femmes? Est-ce qu'il ne les violait pas par là? Mais pas du tout. Parce que eux avaient déjà la foi. Ils avaient déjà accepté de suivre Jésus à sa parole, à sa voix. Souvenez-vous, laissant là leur filet, ils le suivirent. Et le suivant, ils demeurèrent avec lui ce jour-là. Ça faisait déjà 3 ans que tout ce petit monde suivait Jésus. Et avait accepté, bon an, mal an, de le suivre, obscurément. voyez, ils avaient déjà la foi, ils avaient déjà cru sans avoir vu. Bien, ils étaient prêts à recevoir ce miracle de la résurrection à l'intelligence. Le miracle vient toujours en second temps, il ne vient pas en premier temps. On aimerait bien parfois que Dieu multiplie les miracles de sorte que plus personne ne doute de son existence et de sa toute-puissance. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu procède. Du reste, le miracle, on pourrait nous en faire des centaines de milliers, si le cœur est endurci, si l'on refuse de croire, le miracle n'a aucune validité. Songez par exemple à ces guérisons miraculeuses qui sont, j'allais dire, quotidiennes, au moins hebdomadaires, à Lourdes. Songez à ce soleil de Fatima, ce miracle extraordinaire du soleil qui se met à danser dans le ciel. De nombreuses personnes ont cru, parce que leur cœur était déjà disposé, c'est venu consolider, ce miracle est venu consolider leur foi, mais personne ne s'est converti à cause d'un tel miracle. Encore une fois, ne vient qu'étayer la foi, il ne vient pas provoquer la foi. La foi est d'un autre ordre. Vous voyez ? Si donc Jésus se manifeste à ses apôtres à ce moment-là, et seulement à eux et aux saintes femmes, c'est parce que eux et elles ont déjà la foi, et que cette foi a besoin d'être consolidée. Je m'arrête là parce que le vent souffle et je vous vois assez distrait. Je suis pour ma part épuisé par cette semaine sainte et même par cette octave de la miséricorde. Je vous laisse méditer ces quelques paroles que je viens de vous adresser. Voilà, demandez le secret de cette réception du mystère de la résurrection à Marie-Madeleine. Je voulais vous parler de Madeleine aujourd'hui et non pas de Thomas parce que bon, Thomas c'est nous. Saint Thomas, c'est nous. Marie-Madeleine, c'est cette femme extraordinaire qui, en dépit de toutes les fautes passées, doit nous introduire vraiment à ce mystère de la résurrection. Elle, qui, par son intuition toute féminine, répare la faute d'elle, du reste. Les pères de l'Église ont établi un parallèle, plutôt une opposition, entre Ève, qui nous refuse Dieu, qui refuse d'user de son intuition féminine et de son rôle de médiatrice auprès des hommes. Vous avez en contrepoint Marie-Madeleine qui, elle, suit son intuition. Elle sait, elle devine tout de suite, même si elle croit que c'est déjà deviné dans un premier temps, elle comprend tout de suite que c'est Jésus et elle joue le rôle de médiatrice. Apôtre des apôtres, c'est elle que Jésus charge d'aller enseigner jusqu'à Pierre et Jean, ces deux disciples quand même fondamentaux. Voilà, alors demandez à Marie-Madeleine de vous introduire toujours plus avant, pendant ce temps pascal, qui dure encore un bout de temps, eh bien, de vous introduire dans la méditation de ce mystère de la résurrection pour pouvoir y adhérer, que votre cœur soit réchauffé, que votre intelligence soit éclairée à la façon dont le cœur et l'intelligence des apôtres et des saintes femmes ont été éclairés et réchauffés au cours de ce